vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tâcher de répondre à vos questions concernant vos droits à la retraite. Que vous soyez une personne diagnostiquée ou que vous soyez un aidant, vous vous interrogez certainement sur ce que cette situation implique, sur la manière dont sera calculée votre retraite, et c'est bien normal. Pour vous aider à y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui non pas une, mais deux expertes de l'association France Alzheimer et maladies apparentées, Lorraine Gilly, responsable du suivi des politiques publiques au sein de l'association, et Hélène Delmotte, journaliste et experte médico-sociale. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous vous proposons donc deux épisodes consacrés au sujet. Dans cet épisode, nous répondrons à toutes vos questions concernant les droits à la retraite des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou par une maladie apparentée. Et vous pourrez retrouver l'épisode complémentaire concernant la retraite des aidants sur le site de France Alzheimer, la radio. La question de la retraite pour les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer est un sujet tout aussi vaste et important que celui de la retraite des aidants. Beaucoup de personnes sont diagnostiquées avec l'âge et sont pour certaines déjà en situation de retraite lorsque le diagnostic est posé. Mais il y a aussi des malades jeunes. Et là, on rencontre deux cas de figure, ceux qui sont diagnostiqués avant 60 ans et ceux qui ne le sont pas, mais pour qui la maladie a déjà un impact sur leur carrière. Hélène, qu'est-ce qui est prévu pour les malades jeunes et qu'est-ce que ça implique pour eux ?
Alors effectivement, toute la difficulté, c'est le moment du diagnostic. Et ce que l'on constate, en tout cas au niveau de l'association, c'est que de nombreuses personnes, dites malades jeunes, vivent souvent une longue période d'errance diagnostique. Parce que malheureusement, même du côté médical, on ne pense pas forcément à une maladie d'Alzheimer chez une personne qui a moins de 60 ans. Donc on va plutôt parler de dépression, de burn-out, voilà, ou d'éléments comme cela. Et bien évidemment, la vie professionnelle de ces personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées est fortement impactée au fur et à mesure que les symptômes évoluent et en attente toujours de ce diagnostic. Et on a beaucoup de témoignages qui relatent des mises en échec au travail et qui sont parfois suivies de licenciements qui sont bien évidemment douloureux parce que là encore, le diagnostic n'a pas été posé et que le professionnel ne comprend pas la situation. Et ce flou, il implique une orientation compliquée dans les démarches administratives qui vont suivre une interruption de travail, un arrêt de travail, que ce soit du côté France Travail ou bien évidemment du côté des régimes de retraite.
Quel type de témoignages vous recevez justement, soit de personnes qui sont ou ont été malades jeunes, soit d'aidants de malades jeunes sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont plus particulièrement marqué ?
Oui, alors grâce à notre réseau d'associations départementales et aux missions que mènent nos bénévoles sur le terrain, nous recevons des témoignages de nombreuses personnes qui sont concernées indirectement par ces situations. Et j'aimerais partager avec vous le témoignage de François, qui est aidant de sa femme Marie-Claire. Donc je vous lis un extrait de son témoignage. Marie-Claire, qui est professeure dans un lycée, qui a été diagnostiquée à 52 ans de la maladie d'Alzheimer et qui, juste après le diagnostic, continue de se rendre à son travail, mais les difficultés s'accumulent. Un matin, alors que son épouse est partie travailler, François reçoit un appel du proviseur du lycée de son épouse. Marie-Claire ne peut plus travailler et ne terminera pas la journée. Et là, au-delà du choc et de la douleur provoquée par cet arrêt brutal d'activité, le couple doit affronter un vide juridique et un flou artistique du côté de l'éducation nationale et de son administration. Entre arrêt longue maladie, démarches interminables, re-arrêt maladie, perte de la moitié de son salaire, François et Marie-Claire ne sont absolument pas soutenus et orientés comme il le faudrait. Et la carrière de Marie-Claire se termine dans le chaos, car personne à l'éducation nationale ne les accompagne ou ne les oriente correctement. François est démuni face à ses démarches interminables et à l'évolution de la maladie de son épouse. Il se sent très seul. Il finit par contacter le rectorat qui n'arrive pas à lui donner de réponse définitive car, je cite le rectorat, Marie-Claire ne rentre dans aucune case. Finalement, une retraite pour invalidité est décidée, mais uniquement sur la partie éducation nationale qui représente la moitié de sa carrière. En ce qui concerne la partie de sa carrière dans le privé, impossible d'avancer.
C'est un témoignage qui est bouleversant et ce n'est pas une situation isolée, malheureusement. Qu'est-ce que cela engendre comme réflexion au sein de France Alzheimer ?
Alors effectivement, c'est un témoignage bouleversant. Malheureusement, ce n'est certainement pas le seul. Des témoignages comme celui-ci, on en reçoit régulièrement. D'ailleurs, il y a les témoignages qui concernent les aidants de personnes qui ont été salariés ou qui sont encore salariés au moment du diagnostic. Mais il y a aussi toutes ces personnes qui vont être diagnostiquées avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée et qui ne sont pas salariées, mais en activité professionnelle et pour qui le parcours du combattant est d'autant plus important. Donc pour France Alzheimer et maladies apparentées, ce sont des témoignages qui sont précieux car ils nous permettent de nourrir notre force de plaidoyer et d'alerter les pouvoirs publics sur les différentes situations parfois catastrophiques que peuvent vivre les personnes concernées au quotidien. Et ils nous permettent de demander des droits et des dispositifs adaptés à leurs besoins pour que plus aucune famille ne soit confrontée à ces situations très problématiques qui vont causer d'énormes dégâts dans leur quotidien.
Alors, pour les personnes qui sont diagnostiquées après 60 ans, que prévoit le régime des retraites aujourd'hui ?
Alors, il y a deux situations. La première, si vous avez travaillé avec une incapacité permanente au moins égale à 50%, vous pouvez donc bénéficier d'une retraite pour handicap à partir de 55 ans, à deux conditions, c'est-à-dire avoir un nombre minimum de trimestres d'assurance retraite cotisés et soit avoir exercé une activité professionnelle pendant cette période en étant atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50%. Et donc la deuxième situation, si vous êtes reconnu inapte au travail, vous pouvez sous certaines conditions partir en retraite pour inaptitude au travail dès lors que vous allez atteindre l'âge de 62 ans. Dans certaines situations, il faut quand même noter que l'attribution est automatique sans contrôle médical. Et donc ces situations, quelles sont-elles ? En cas d'invalidité reconnue avant l'âge minimum de départ à la retraite, en cas de versement de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, ou en cas de détention d'une carte d'invalidité avec une incapacité permanente d'au moins 80%.
Merci Hélène pour ce récapitulatif.
Merci à vous.
Lorraine Gilly, il reste encore beaucoup à faire pour les malades et leur retraite.
Oui, tout à fait. Tout d'abord, j'aimerais rappeler, comme dans l'épisode sur la retraite des aidants, qu'il y a un fort impact du cloisonnement entre les champs du handicap et de la dépendance pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Par ailleurs, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que même si les personnes diagnostiquées avant 60 ans sont reconnues adultes handicapées pour ce qui est du système de compensation dont elles vont pouvoir bénéficier, donc la prestation de compensation du handicap, la PCH, ce n'est pas une reconnaissance sociale, sociétale, pleine et entière dans leur quotidien, comme les handicaps pleinement reconnus aujourd'hui. C'est donc un handicap que l'on définit comme invisible, qui fait que l'une des réponses qu'on leur oppose régulièrement dans le cadre de démarches entreprises, notamment pour avoir accès à sa retraite, c'est « vous ne rentrez dans aucune case », comme on a pu le répondre à Marie-Claire. Donc ça, c'est inadmissible. On doit faire mieux, on peut faire mieux et on doit pouvoir répondre à chaque situation en fonction des besoins des personnes concernées.
Comment se positionne la France sur ce sujet par rapport à d'autres pays ?
Alors, il est vrai que la France est un peu en retard sur le sujet de la protection ou de l'accompagnement des personnes diagnostiquées qui sont encore en activité professionnelle. Donc, comme on l'a vu avec Marie-Claire, c'est souvent au moment du diagnostic de la débrouille personnelle le plus souvent ou c'est laissé à des initiatives privées. Donc, par exemple, votre employeur va mettre en place des modalités d'accompagnement ou d'adaptation de votre poste de travail quand vous pouvez continuer à travailler, évidemment, en fonction de l'évolution de la maladie. Mais il est vrai qu'il n'y a pas encore véritablement de protection ou de démarche ciblée, spécifique aux besoins des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et qui souhaitent et qui peuvent continuer à travailler. Et donc en 2022, il est intéressant de noter que Alzheimer Europe, dont France Alzheimer est membre, a publié son rapport annuel sur l'emploi et les protections sociales pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée et leurs aidants. Et l'on constate, grâce à ce comparatif de ce qu'il existe en Europe, que la France est effectivement un peu à la traîne sur cette question. Et on a par exemple une initiative d'une université anglaise qui a mené 3 études sur les déterminants de l'employabilité et du maintien dans l'emploi des personnes atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Donc, comment on les accompagne, comment on peut informer et former l'environnement autour d'elles, donc leurs collègues, par exemple, pour que leur quotidien s'adapte et que tout le monde puisse s'adapter un minimum autour d'elles et qu'elles puissent poursuivre leur mission professionnelle si elles le souhaitent et aussi longtemps que leur maladie le leur permet.
Bien, merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir partagé et ces informations et ces témoignages. Merci de nous avoir aidés à faire le point sur la question des retraites pour les aidés, mais aussi pour les aidants, puisqu'il existe un épisode complémentaire que vous pouvez écouter sur France Alzheimer, la radio. Quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère qu'ensemble, nous avons pu répondre à vos questions et c'est ce que nous continuerons de faire afin de vous apporter tout notre soutien avec France Alzheimer et maladies apparentées. Je vous invite à écouter ou réécouter tous nos épisodes. Bonne écoute et très bonne journée.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.